Une production Binge Audio.
Mes très chers amis, comme nous tous, ces derniers jours, nous sommes un peu sonnés. Un peu sonnés et un peu scotchés au site d'infos depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je crois qu'on pensait tous un peu naïvement que la guerre de nos jours, ce serait des attaques ciblées de drones, des piratages de sites web de banques centrales, mais pas des chars et des blindés comme dans les livres d'histoire. Alors qu'en vrai, la guerre ne s'est jamais vraiment arrêtée. La France était engagée en Mali ou en Afghanistan. Mais peut-être qu'on se mettait des œillères. Moi, je suis pas spécialiste de géopolitique, et notre invitée nous expliquera les enjeux de ce qui se déroule bien mieux que moi. Mais je crois qu'à chaque fois qu'elle revient, la guerre nous surprend. Car chaque génération espère être celle qui canalisera cette part sombre de violence et de cruauté que porte l'humanité. On appelait bien la Première Guerre mondiale la der des ders. Cette part sombre et cruelle, pourtant, nous la connaissons. Car nous l'avons tous en nous, quelque part. Si on en croit les humanistes, qui, avant d'être dévoyés par les réacs, portaient la belle idée que chaque personne est un monde et que nous portons tous en nous l'intégralité des émotions possibles. Sarah Schulman, dans « Le conflit n'est pas une agression », fait un lien de prime abord surprenant entre psychologie et géopolitique. Elle écrit qu'il ne faut pas être surpris que nous soyons incapables de résoudre le conflit israélo-palestinien si nous sommes une génération d'adultes incapables de répondre au téléphone avec une personne avec qui nous sommes fâchés et que nous bloquons toute personne pas d'accord avec nous. Bien sûr, je vous entends déjà. C'est plus compliqué que ça. Les enjeux sont plus complexes. Ils sont avant tout politiques, liés aux responsabilités des décideurs. Bien sûr, on ne peut pas comparer des dizaines et des centaines de morts et des petites disputes interpersonnelles. Mais peut-être, comme le dit Sarah Schulman, qu'il y a quand même un lien, un petit lien, un tout petit lien, entre la façon dont se parlent les gens lambda et la façon dont se comportent les États. Et dans ce cas, c'est aussi une bonne nouvelle, une toute petite bonne nouvelle, car ça veut dire que nous pouvons tous œuvrer à canaliser cette part sombre.
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On peut plus rien dire.
Très chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette édition spéciale Ukraine d'On peut plus rien dire. Dans cet épisode, nous essaierons de comprendre ce qui se passe actuellement en Ukraine. Quelles seront les conséquences de cette invasion russe, s'il faut craindre une troisième guerre mondiale et si la guerre est un concept fondamentalement masculin. Avec moi pour tenter de répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Olivier Schmitt. Olivier Schmitt, vous êtes professeur de relations internationales au Centre d'études sur la guerre au Sud-Danemark et vous êtes auteur de « La guerre et la paix ». Alors non, ce n'est pas Léon Tolstoï que j'ai à côté de moi. « La guerre et la paix », c'est un manuel encyclopédique et assez rare pour être souligné, qui est très accessible. Un manuel sur la guerre et la paix dans notre monde. Alors, première question, Olivier Schmitt, question peut-être à la fois très simple et compliquée. Qu'est-ce qu'une guerre ?
Effectivement, c'est une question à la fois simple et compliquée. Simple dans le sens où, je crois, nous avons toutes et tous des images de ce qui constitue une vraie guerre. Et probablement, dans les pays occidentaux, cet imaginaire est principalement ancré sur la Seconde Guerre mondiale. L'idée qu'il y a des, comme vous mentionnez dans l'introduction, des colonnes de chars, qu'il y a de grandes destructions, qu'il y a des volumes de feu qui sont assez inimaginables au réel. Donc on a cette image d'un déchaînement de violence. Ensuite, sur la définition même de la guerre, on se rend compte que c'est un objet qui est relativement difficile à définir. La littérature scientifique elle-même n'a pas forcément de consensus sur la manière d'objectiver ou de définir la guerre. Il y a, je pense, une littérature historique, par exemple en études stratégiques, qui associe fortement la guerre à la politique. Donc, hein, c'est le lien que fait Clausewitz, hein, la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Et on peut essayer d'identifier certains critères qui permettent de caractériser une guerre. Le premier, c'est que c'est une activité violente. Ça semble évident, mais en fait, l'idée qu'il y ait de la violence, qu'il y ait de la destruction, qu'il y ait des morts, je pense que c'est un aspect important dans ce qui permet de définir une guerre. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éviter ce que je personnellement considère comme étant des écarts de langage qui consistent à déclarer la guerre à peu près tout et n'importe quoi.
Alors ça nous fait forcément penser à deux déclarations de nos récents présidents. Macron, avant le premier confinement, qui avait dit « nous sommes en guerre » et François Hollande, qui après les attentats de 2015, avait dit aussi que nous étions en guerre. Est-ce qu'on s'est un peu dévoyé sur le sens du mot « guerre » ces dernières années ?
Je pense que ça relève en fait d'une stratégie politique que dans la littérature scientifique on appelle la sécuritisation. C'est-à-dire l'idée que quand on emploie un vocabulaire lié aux enjeux de sécurité, ils ont une charge émotionnelle plus forte. Et donc, en fait, ça permet aux responsables politiques de faire adopter un certain nombre de mesures qui ne seraient pas forcément adoptées en temps normal. Pourquoi ? Parce que quand on emploie le vocabulaire de guerre, il y a cette notion d'une temporalité spécifique. Il y a cette notion d'exception. En quelque sorte. La guerre, c'est un événement qui est exceptionnel. Accessoirement, la guerre est un événement qui est statistiquement faible au sein du système international, donc il y a quelque chose qui est exceptionnel. Et donc, quand on emploie le registre du vocabulaire de la guerre, on rentre dans une forme de temps d'exception qui permet, justement, de faire adopter un ensemble de mesures politiques particulières.
Et alors, aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est un peu, justement, l'image cliché qu'on a de la guerre. C'est pour ça que ça nous choque autant ?
Je pense que pour les pays occidentaux, nous avons fait la guerre depuis 30 ans sans en vivre les conséquences, dans le sens où le coût politique, humain et financier était principalement porté par les pays dans lesquels nous intervenions. Je veux dire, les Irakiens ont connu la guerre. Je veux dire, il y a eu des destructions, il y a eu plusieurs milliers de morts. Mais nous
oui,
n'avons
pas... Oui,
parce
que nous, la France, on était aussi... Donc, on est intervenu au Mali.
En
Afghanistan.
Tout à fait. Mais la population elle-même ne l'a pas vu.
C'était indolore pour nous, c'est ça.
C'était tout à fait indolore pour nous. Là, la proximité est plus grande. Le volume de feu est aussi considérable. On voit bien qu'il y a une utilisation par l'armée russe d'artillerie, d'aviation, qui conduit à des destructions, à des milliers de morts. Donc, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude. Et aussi... Étant donné l'interdépendance des économies occidentales et russes, et aussi les liens politiques qu'on avait voulu créer avec la Russie, cette fois, il va y avoir des conséquences directes pour les populations occidentales. Une hausse du coût de la vie, une hausse des coûts de l'énergie. Donc, entre guillemets, on va le sentir. Et je pense que c'est ce qui crée cette différence. On était en guerre depuis une trentaine d'années, sauf qu'on ne le voyait pas.
Est-ce qu'on peut craindre une troisième guerre mondiale ? Est-ce qu'il faut craindre une troisième guerre mondiale ?
Alors, dans toute guerre, il y a une part de passion, c'est-à-dire que la guerre commence à avoir sa propre logique. C'est ce que Clausewitz appelait la montée aux extrêmes. Au bout d'un moment, étant donné la violence de la guerre elle-même, il y a cette idée qui consiste à dire... la raison s'échappe un petit peu et la guerre s'auto-alimente. Donc, malheureusement, il y a toujours un risque d'escalade. Ce qu'on peut espérer, c'est que cette guerre, entre l'Ukraine et la Russie, s'effectue à l'ombre de la dissuasion nucléaire entre les pays membres de l'OTAN et la Russie elle-même. Et le but de la dissuasion nucléaire, c'est justement de ne pas monter à l'escalade nucléaire qui serait absolument catastrophique. Et c'est d'ailleurs l'un des paradoxes de la dissuasion nucléaire, c'est ce qu'on appelait le paradoxe stabilité-instabilité. C'est-à-dire que quand vous avez une stabilité entre puissances nucléaires, en fait, la conflictualité se déplace dans des terrains ou qui ne sont pas couverts par la dissuasion. Donc en fait, avoir la stabilité nucléaire, paradoxalement, ça augmente le niveau d'instabilité dans d'autres territoires ou d'autres théâtres qui ne sont pas couverts par la dissuasion nucléaire. Et c'est le cas, par exemple, en Ukraine aujourd'hui.
Ah, ça veut dire que parce qu'ils n'ont pas, eux, l'arme atomique, la Russie s'est permis de les envahir.
Tout à fait. Pour vous donner un exemple, on dit souvent que la guerre froide a été une guerre sans morts. C'est faux. La guerre froide a fait environ 20 millions de morts. Sauf que c'était des morts qui étaient en Afrique ou en Asie centrale. Pourquoi ? Parce que
20 millions ?
20 millions. C'est absolument colossal au total.
Ah,
on a tendance à le sous-estimer, mais c'est 20 millions
ah,
bon, morts au
pas.
Total.
Non, je l'ignorais totalement.
Ouais. Ben, si on fait la somme, en fait, hein, des conflits liés à la guerre froide en Afrique et en Asie, il y a au total environ 20 millions de morts.
D'accord.
Mais pourquoi ? Parce que, comme il y avait une stabilité sur le territoire européen du fait de la dissuasion nucléaire, la conflictualité s'est déplacée vers d'autres territoires.
Alors, ce dimanche, justement, 27 février, Vladimir Poutine a brandi cette fameuse menace nucléaire. Comment vous analysez cette prise de position ?
Ça fait partie de ce qu'on appelle le signalement nucléaire lors d'une crise. Ça consiste à rappeler, notamment aux pays occidentaux, de n'escaladez pas parce que nous avons les moyens de vous faire mal. On a fait exactement la même chose. Suite à la déclaration de M. Poutine, le ministre des Affaires étrangères français, M. Le Drian, a rappelé que, je crois, la déclaration exacte, c'est « il serait bien que la Russie se rappelle que l'OTAN est aussi une alliance nucléaire ». Le chef d'état-major des armées français, qui parle très très peu dans les médias en général, a dit plus ou moins la même chose le lendemain sur France 24. Donc ça fait partie, en fait, du signalement qui consiste à dire « attention, ok, vous voulez escalader, mais... voilà, n'escaladez pas trop. » Donc, du point de vue de la Russie, ça fait partie de leur stratégie qui consiste en fait à essayer de sanctuariser le territoire ukrainien en limitant les interventions extérieures pour, en gros, pouvoir conduire l'intervention comme ils le souhaitent.
Oui, vous avez écrit dans un article consacré justement à la bombe atomique que cette arme atomique, on l'utilise selon une stratégie du signal. C'est ça, en fait.
Oui,
elle sert à ça, finalement. Elle sert à faire peur.
Ben, en fait, le principe de la stratégie atomique, c'est une arme de non-emploi. C'est-à-dire qu'on...
Enfin, jusqu'au jour où...
Jusqu'au jour où. Mais ouais. C'est qu'on menace de son emploi en espérant que ça suffise pour faire baisser les tensions. Et ça fait... C'est le paradoxe, en fait, de la stratégie atomique. C'est ce que Thomas Schelling, donc, qui a été prix Nobel d'économie en 2006, mais qui avait écrit en fait le grand livre sur la stratégie nucléaire dans les années 60, appelé le brinkmanship, c'est-à-dire rester sur le seuil. Donc il faut toujours menacer de l'emploi et prendre le risque potentiel de l'emploi pour espérer que l'adversaire en fait finisse par abandonner ses prétentions. C'est une stratégie particulièrement risquée, effectivement.
Combien de conflits vous avez étudiés ?
Ça dépend ce que vous appelez étudier. En particulier, dans ma thèse, j'avais travaillé sur la guerre du Golfe de 91, le Kosovo en 99, l'Irak en 2003 et l'Afghanistan. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afghanistan. J'ai moi-même travaillé en Afghanistan pendant quelques temps. Et depuis 2014, je suis avec attention effectivement le conflit ukrainien.
Est-ce qu'il y a des points communs entre toutes les guerres, tous les conflits ? Est-ce qu'ils se ressemblent tous ?
Alors, il y a cette distinction traditionnelle qui est faite entre la nature de la guerre qui serait un peu immuable, c'est-à-dire qu'elle serait liée à des enjeux politiques, que c'est une activité violente et collective, et le caractère qui fait que la manière dont elle est mise en œuvre évolue, en quelque sorte, parce que les technologies changent, parce que les troupes qui sont déployées changent. Si on regarde les conflits... menés par les Occidentaux depuis une trentaine d'années, le principal point commun, c'est qu'ils ont été menés dans une logique un peu assurantielle de gestion du risque. C'est-à-dire qu'il s'agissait de minimiser les risques à l'étranger pour protéger les populations dans les pays occidentaux, en fait, dans une logique de police internationale. Donc, on va... en quelque sorte patrouiller pour s'assurer qu'il n'y ait pas de délinquants, des groupes terroristes et ainsi de suite, pour protéger les populations. Je pense que cette logique est en train de changer avec l'Ukraine, où on se rend compte que cette logique qui était en fait assurantielle, où il y aura toujours un risque quelque part, c'est le principe, hein, il y aura toujours un risque quelque part. Un, financièrement, on ne peut plus se le permettre. Deux, ça a des conséquences très directes pour les populations locales. Et trois... on pouvait se le permettre quand, en gros, il n'y avait plus de menaces, mais il n'y avait que des risques. Quand des menaces reviennent, on est obligé de se concentrer sur les menaces. La grosse différence entre un risque et une menace, c'est qu'un risque, il faut toujours le gérer parce qu'il est toujours présent. La menace, comme c'est un affrontement politique de volonté, à un moment ou à un autre, on peut espérer qu'il y a un compromis. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver, mais on peut espérer qu'il y a un compromis.
Ah, finalement, la menace est plus dangereuse, mais elle est aussi plus solvable.
Elle est plus solvable dans le sens où la menace relève d'une intentionnalité extérieure. Il y a un acteur extérieur qui a une volonté qui éventuellement s'affronte à la nôtre. Et il y a plusieurs moyens de gérer ces conflits. Ça peut être diplomatique, ça peut être économique. On peut de temps en temps escalader dans le cas d'une guerre. Hein. C'est un moyen de gérer un conflit, une guerre. Le but de la guerre, c'est d'avoir une meilleure paix pour le vainqueur. Mais au final, on peut espérer qu'il y ait un compromis qui se dégage si on réussit à trouver des surfaces de convergence politique.
Dans tous les conflits que vous avez étudiés, est-ce qu'il existe dans les sciences de la guerre un point commun ou un dénominateur où on se rend compte que la diplomatie échoue? Qu'est-ce qui fait que la diplomatie échoue?
En fait, c'est très compliqué de savoir le moment exact où une guerre se... Enfin, pourquoi une guerre se déclenche au moment où elle se déclenche?
Quand est-ce qu'on décide de tuer, en fait, de passer à l'acte, à la violence?
Exactement. Il y a un article très célèbre de 1999 qui dit la guerre est dans le terme d'erreur. C'est-à-dire que statistiquement, on peut trouver des corrélations entre des facteurs qui expliquent le déclenchement d'une guerre. Mais en fait, on n'a pas vraiment de corrélation significative. Et une guerre se déclenche dans le reliquat statistique, entre guillemets, et on n'arrive pas à identifier la cause commune qui fait qu'une guerre se déclenche au moment où elle se déclenche. Ce qu'on peut dire, mais encore une fois, c'est pas une loi universelle, c'est qu'on observe souvent, en tout cas régulièrement, un acteur qui est convaincu, qui croit réellement que l'emploi de la force va lui permettre d'accomplir ses objectifs politiques. Il peut y croire à raison ou à tort, mais il y a cette conviction qui est que finalement la guerre va avoir moins de coûts que ce qu'on peut espérer. En fait, c'est un rapport coût-bénéfice qui est acceptable. Assez régulièrement, l'évaluation est fausse. Hein, très souvent, la guerre a un coût supérieur. Mais voilà, il y a un acteur qui se dit on peut avoir un objectif politique à un coût réduit. Après, il y a aussi les cas assez particuliers des guerres civiles qui peuvent relever juste de la combinaison d'un sentiment d'humiliation, de frustration collective. Hein, c'est les travaux de Ted Gour. Et il faut une étincelle, en fait, qui va faire enflammer la frustration. Ce qu'on a vu en Tunisie, par exemple, au début du déclenchement des printemps arabes, il y avait une large frustration répandue dans la population. En fait, il y a un événement qui cristallise. Et cet événement particulier sert de déclencheur, mais parce que les conditions étaient préexistantes.
Quand est-ce qu'a réellement commencé ce conflit entre la Russie et l'Ukraine?
Je pense que il faut distinguer entre conflit et conflit armé, dans le sens où il y avait des oppositions politiques, des divergences politiques et un passage à la force. Je crois que le conflit, en fait, relève du début des années 2000, c'est-à-dire quand l'Ukraine essaye d'essayer d'identifier son modèle politique qui ne soit pas nécessairement lié à la Russie. La première révolution orange de 2004 qui voit en fait des milliers d'Ukrainiens dans la rue demander plus de démocratie, moins d'oligarques, ainsi de suite, est vue comme une première menace à Moscou, parce qu'elle est interprétée comme étant pilotée par l'étranger, ce qui n'a pas grand sens, mais c'est vu comme une menace directe à cause de ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où une partie significative de la population ukrainienne a souhaité définir sa trajectoire politique, le conflit a commencé à se cristalliser et à escalader en fait, de manière violente après la révolution de 2013, donc avec l'invasion en 2014. Donc les germes du conflit étaient dans des trajectoires politiques qui commençaient à diverger, ce que la Russie n'a pas particulièrement apprécié de ce point de vue-là. Enfin, la métaphore est peut-être impropre et je m'en excuse, mais la Russie a tendance un peu à se comporter comme un ex toxique, c'est-à-dire qui refuse son ex-partenaire puisse avoir son autonomie propre. Et d'ailleurs, il y a un langage très genré qui a été adopté par Vladimir Poutine à un moment, il y a 3 semaines, dans cette conférence de presse commune avec le président Macron, où il dit, grosso modo, hein, « Bon, ma belle, il va falloir que tu t'y fasses, et tu vas devoir devoir accepter ce qui va se passer, ce qui, dans une société qui est elle-même très genrée, avec des violences envers les femmes, et un vocabulaire qui était très spécifique et qui a très bien été compris de cette manière par tous les acteurs, y compris en Ukraine. Donc oui, je pense qu'il y a aussi on parlait d'émotion, il y a de ça. Il y a un peu ce sentiment de se dire, en fait, l'Ukraine, ça nous appartenait, c'était à nous, réellement. Et en fait, comment ose-t-il se séparer de nous ?
Est-ce que celui qui attaque dans une guerre a toujours le sentiment de se défendre ?
Alors... Clausewitz dit que l'attaquant est toujours pacifiste. Pourquoi ? Parce qu'il préfère que le défenseur ne se défende pas, et donc il va toujours prétendre qu'il fait ça pour la paix. Alors, est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, j'essaie de réfléchir à des contre-exemples, mais c'est clair que on déclenche pas une guerre si on perçoit pas un sentiment de menace. Ça, c'est... j'ai du mal à imaginer immédiatement comme ça, à penser à des exemples de guerre qui soient, j'allais dire, pour le plaisir ou pour une pure volonté de domination. Je pense qu'il y a toujours un sentiment de menace. Après, la menace, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être effectivement une menace militaire identifiée. Ça peut être une menace qu'on pourrait qualifier de ontologique, c'est-à-dire la manière dont une communauté politique se définit. Et à partir du moment où les trajectoires politiques en Russie ont commencé à évoluer vers une réhabilitation progressive du passé impérial russe, qui est rentré dans le langage politique officiel, ben en fait, ça devient une menace ontologique quand ce qui constituait l'un des joyaux de l'Empire russe, qui était l'Ukraine, veut se séparer. Donc, effectivement, il y a toujours un sentiment de menace, mais ces menaces peuvent être d'ordre différent.
Aujourd'hui, que reproche Poutine à l'Occident ?
Alors, il y a des reproches de plusieurs ordres. Il y a un reproche qui est, j'allais dire, politico-stratégique, qui consiste à dire que, à la fin de la guerre froide, les pays occidentaux n'ont pas intégré la Russie dans l'architecture de sécurité européenne, n'ont pas suffisamment pris en compte les demandes russes, et donc il y a une inquiétude sécuritaire de la Russie. Il y a un deuxième volet qui est plus émotionnel, en quelque sorte, et qui consiste à dire que les Occidentaux non seulement n'ont pas pris en compte les intérêts sécuritaires de la Russie, mais mènent une guerre active pour saboter les fondements de l'État russe, que ce soit en fomentant des révolutions pro-démocratiques aux marges, en fait, des territoires russes, que ce soit en Géorgie, que ce soit en Ukraine, ou que ce soit en conduisant des actions de sabotage ou de propagande auprès de la population russe. Et il y a un troisième registre de critique qui est un peu idéologique en quelque sorte, qui consiste à dire qu'en fait, l'Occident libéral qui promeut un certain nombre de valeurs progressistes, égalité homme-femme, droit LGBT+, et ainsi de suite, en fait, tout ça, ce sont des menaces contre l'intégrité morale de la communauté politique russe. Donc, en fait, il y a ces trois ordres de critiques. Une critique politico-stratégique, une critique d'influence et de néfaste de la démocratie, et une critique morale, en fait, d'un Occident décadent et corrompu qui contaminerait, en quelque sorte, un corps politique resté pur en Russie.
Vous êtes aussi l'auteur d'un article universitaire consacré à ce qu'on appelle les récits politiques stratégiques. C'est ma traduction, j'espère qu'elle elle est juste. Depuis la première agression russe en Ukraine, du coup, en 2014. Et vous désossez la propagande russe et vous expliquez pourquoi elle a résonné avec une partie de l'extrême droite française. Mmh. Et il y avait justement cette idée de morale corrompue ou de ce qu'on appelle le wokisme, enfin ce que certains appellent le wokisme. C'est en fait cette critique de cette morale corrompue, elle a été... en France, directement biberonné par la propagande russe. C'est ce dont on se rend compte en vous lisant.
Alors, je ne sais pas si elle est... je ne suis pas sûr que la critique qui est portée par certains cercles conservateurs qui fonctionnent en réseau, de ce qu'eux appellent le wokisme, à ma connaissance, personne ne s'auto-identifie comme wok, mais ce qu'eux appellent le wokisme, je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire... un résultat, disons une création de la propagande russe.
Mais ils sont venus appuyer sur ce bouton.
Voilà, exactement. Ils sont venus appuyer sur un sentiment préexistant qui existait dans certains cercles conservateurs, mais pas que français, hein, en Occident en général. Et eux ont joué sur ce côté-là en identifiant des personnes qui pouvaient faire venir dans leurs médias, hein, comme RT et Sputnik, pour amplifier le message. Mais on voit exactement la même chose avec Fox News aux États-Unis. Le Tucker Carlson, qui est en fait l'un des principaux représentants du suprémacisme blanc aujourd'hui dans les médias américains, évidemment, est vent debout contre tout ce qui relèverait de Black Lives Matter, du soi-disant wokisme et ainsi de suite, et en même temps adopte un discours où il dit explicitement, mais je vois pas pourquoi, en fait, dans la guerre russo-ukrainienne, on n'est pas du côté des Russes. Pourquoi ? Parce que les Russes, ce sont, voilà, Poutine, c'est un grand dirigeant, il est chrétien, il est blanc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas de son côté ?
Et puis c'est aussi le symbole extrême de la masculinité à l'ancienne, là, quand on voit torse nu sur ses chevaux. Enfin, c'est vraiment...
Il
veut incarner ça de toutes ses forces.
Tout à fait. Il met absolument ça en scène. C'est parce que ça résonne avec une partie des électorats. Il y a une vraie angoisse dans certains cercles de perte de virilité. Et du coup, il y a ça permet en fait de créer il existe politiquement ce sentiment parmi une partie de l'électorat, et c'est clair que la propagande russe joue sur ce sentiment préexistant.
Vous écrivez dans cet article universitaire dont on parlait, pour Moscou, l'objectif de cette guerre de l'information n'est pas que les populations croient ce qui émane du Kremlin, mais qu'elles ne croient plus en rien et qu'elles remettent systématiquement en cause leurs dirigeants. Saper la confiance des sociétés afin de paralyser la décision stratégique des États. Je redis cette phrase que je trouve extrêmement forte. L'objectif de Moscou est que les populations ne croient plus en rien. Expliquez-nous.
Ben, je pense qu'en fait, ça relève un peu du sentiment, ou en tout cas de ce que j'appellerais la posture anticonformiste. En fait, quand on regarde la manière dont fonctionne une partie de l'appareil médiatique dans les pays occidentaux aujourd'hui, c'est très confortable d'être anticonformiste. Il suffit de dire non, mais je remets en cause les discours dominants. Ou alors le fameux je ne fais que poser des questions. Je raconte n'importe quoi, mais je ne fais que poser des questions. Ce qui, en fait, permet une sorte de nivellement ou d'écrasement de ce qui relève du fait et ce qui relève de l'opinion. Je pense que c'est une tendance de fond, en fait, dans une partie de nos sociétés, parce que qui relève de plusieurs facteurs, qui relève structurellement d'une forme de perte de confiance dans les institutions, hein, qui est assez nette partout dans les pays occidentaux, qui relève aussi de la manière dont l'appareil médiatique fonctionne, avec, on a vu hein, depuis une vingtaine d'années, l'apparition de talk show dont le modèle économique est entièrement basé sur le clash. Donc en fait, il ne s'agit absolument pas...
À l'inverse de ce qu'on veut faire nous, je précise.
Voilà. Exactement. Donc il ne s'agit absolument pas d'avoir un échange d'arguments de fond, il s'agit d'avoir des gens
qui
hurlent mutuellement les uns sur les autres, mais qui permet en fait de niveler le débat en disant non mais en fait ce ne sont que des opinions divergentes, comme s'il y avait en fait une multiplicité d'opinions et sans possibilité d'avoir une forme de compréhension commune d'une situation politique. Et les médias russes jouent absolument dessus. Quand RT adopte comme slogan question more, donc questionner plus, en fait c'est juste assez, je ne fais que poser des questions, il faut toujours remettre en cause tout parole officielle, parce que toute parole officielle n'est qu'un discours parmi d'autres. Alors, et ce qui, évidemment, du point de vue d'un État adverse, est ultra commode. Parce que vous pouvez, du coup, créer des audiences qui vont systématiquement s'opposer à leur gouvernement. Si vous voulez paralyser une décision politique, c'est un excellent moyen de le faire. Et d'ailleurs, RT ne s'en cache absolument pas. Margarita Simonian, donc la directrice de RT, dans une interview de 2011, disait... le but de RT, c'est de créer des audiences qui, le jour venu, seront habituées à nous consulter pour avoir des informations différentes. Et évidemment que nous utiliserons ces audiences à notre profit. C'est explicite.
Du coup, c'était une bonne chose, selon vous, d'interdire leur diffusion en ce moment ?
Alors, j'avoue, je parle vraiment à titre personnel, je suis assez partagé sur le sujet. Parce que d'un côté, comme disait Raymond Aron, alors là, je vais faire mon
prof
homme blanc,
Po.
Libéral, traditionnel, ce que vous voulez. Mais les démocraties ont aussi le droit de se défendre. Et c'est vrai, quand les gens veulent, voilà, on n'est pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Et en même temps, RT et Spoutnik ont en fait des audiences relativement limitées en France. Donc, est-ce que la mesure n'est pas trop importante étant donné leur audience réelle? J'ai pas de meilleure réponse que j'arrive pas encore à trancher.
Vous écrivez aussi dans votre article qu'il ne sert à rien, stratégiquement, de débunker ou de fact-checker une propagande politique pour avoir des effets sur les consciences des personnes qui les lisent. Il faut au contraire construire d'autres mythes, d'autres récits, d'autres systèmes de valeurs. Ce dont on se rend compte, c'est à quel point, en fait, la guerre, avant d'être la guerre, c'est déjà tellement une histoire de récits, d'histoires qu'on se raconte, à quel point c'est pas rationnel, en fait.
Non, mais en fait, la politique n'est pas rationnelle. La politique, c'est l'organisation de discours collectifs qui permettent de faire tenir ensemble des sociétés et en fait des individus au sein de ces sociétés. Mais oui, pour revenir à la première partie de la question, je ne pense pas que le fact-checking soit une réponse idéale. Pourquoi ? Parce que quand vous avez accepté un récit qui consiste à dire que toute parole officielle est de toute façon la couverture ou le cache-nez d'intérêt particulier, en fait, le fact-checking va aussi rentrer dans « c'est une parole officielle, donc on ne va pas le croire ». Et je pense, pour le coup, beaucoup plus important d'essayer de retrouver une forme de narratif commun ou en tout cas de base épistémologique commune, en fait, au sein des sociétés,
d'un socle auquel on croit tous, sur lequel on soit d'accord.
En quelque sorte, parce que je pense qu'on l'a de moins en moins aujourd'hui, mais pour ça, ça passe, ça c'est vraiment une opinion tout à fait personnelle, hein, mais ça passe par une remise en cause assez importante de la manière dont l'État interagit avec la société, par exemple en France. Ça passe peut-être par une remise en question de notre modèle politique qui est fondé sur un exécutif qui est très très fort, mais qui en fait ne peut que décevoir, parce que les attentes placées en lui sont tellement fortes que les citoyens ne peuvent que être déçus. Donc au bout d'un moment, ça érode la confiance des citoyens dans les politiques, et aussi, en tout cas pour ce qui concerne la France, un modèle qui fait que le vainqueur de l'élection présidentielle a quasiment tous les pouvoirs, parce que le Parlement va statistiquement être de la même couleur que l'exécutif, sauf que de facto, il est élu par entre 20 et 25% des citoyens au premier tour. Donc en fait, on élit quelqu'un dont 75% des gens ne voulaient pas à l'origine en lui donnant tous les pouvoirs. Nécessairement, ça crée un certain nombre de frustrations. Mais voilà, ça, ce sont juste des pistes à explorer, parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de recréer un socle politique commun, en tout cas en France et probablement dans d'autres pays, hein, les États-Unis, c'est clairement, il y a clairement besoin de recréer un socle politique commun, mais ça peut passer par ce genre d'initiative.
Je vous remercie, c'est une piste que je trouve en tout cas très intéressante. Je suis contrainte de vous interrompre pour quelques petites secondes. On se retrouve juste après ça.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort « Mécanique du privilège blanc », un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depris, qui anime depuis des années la page Instagram « Semblant de rien », sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train d'essayer de comprendre quelque chose à ce qu'il se passe en Ukraine et d'essayer de comprendre quelles conséquences cela risque d'avoir sur nous et le reste du monde. Avec moi pour tenter de répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir Olivier Schmitt, professeur de relations internationales au Centre d'études sur la guerre au Danemark et auteur de « La guerre et la paix ». Olivier Schmitt, est-ce qu'un monde sans guerre est possible ?
Je vais probablement être pessimiste et négatif. J'y crois pas parce que la guerre est en fait un moyen violent de régler des différends politiques. Et que tant qu'il y aura des communautés politiques séparés et qui auront des conflits ou des divergences de vues, la guerre sera toujours un moyen de résoudre en fait ces différends. Et comme je ne crois pas à l'émergence d'une communauté politique mondiale idéologiquement unifiée, je pense pas que la guerre disparaîtra du jour au lendemain.
Est-ce que on est trop gâté en fait en Occident ? Est-ce qu'on a oublié que la paix c'était un luxe, un état d'exception, et que la guerre est une sorte de force de gravité contre laquelle il fallait sans cesse lutter ?
C'est possible parce que en fait on a vécu une période historique qui est absolument exceptionnelle depuis la fin de la guerre froide, qui était que la grande puissance du système international et les autres puissances importantes étaient toutes dans le même camp. On était tous du côté des États-Unis. Et donc ça a donné effectivement cette espèce de sentiment de pouvoir élargir à la fois la mondialisation économique, l'idée que la démocratie allait pouvoir s'étendre sur d'autres pays du monde. C'est d'ailleurs la raison pour la manière avec laquelle on a interagi avec la Russie et la Chine, en disant que on espérait qu'il y ait une forme de convergence politique à partir du moment où on créait des liens économiques assez forts. Et en fait, on revient à une configuration du système international où les grandes puissances ne sont pas nécessairement dans le même camp et où il y a donc des affrontements politiques structurellement importants et avec effectivement toujours le risque de guerre comme moyen de résoudre les différends.
Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un peuple en sauve un autre ? On parlait tout à l'heure des interventions en Afghanistan, au Mali, en Irak. Au final, quand on se demande aujourd'hui si elles ont vraiment servi à quelque chose, est-ce qu'on peut sauver un autre État ?
En tout cas, on peut le défendre. Quand les Alliés débarquent en France en 1944, clairement, en fait, ça permet de rétablir la souveraineté française. Faut pas se mentir. Par des mécanismes d'alliance, historiquement, c'est arrivé. Alors, est-ce que c'est la guerre ? Mais quand les États baltes recouvrent leur souveraineté au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, ils ont aussi bénéficié du fait que les pays occidentaux n'avaient jamais reconnu l'annexion des États baltes par l'URSS. Donc ça a pris 60 ans, mais ils sont redevenus indépendants. Donc peut-être que sauver est un terme fort, mais la guerre peut servir à protéger des communautés politiques, y compris extérieures aux belligérants.
Que pensez-vous du mythe du sauveur blanc qui est souvent critiqué en ce moment justement quand on parle des interventions à l'étranger ? Cette critique, elle est trop sévère selon vous ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, à mon avis, il faut faire la part des choses entre ce qui relève des intentions, j'allais dire des bonnes intentions, et en même temps de l'imaginaire parfois néocolonial qui a pu inspirer une partie des interventions militaires. Pour le dire très très franchement, je pense que par exemple l'intervention en Afghanistan était réellement pétrie de bonnes intentions. On a étant donné l'effort financier et humain qui a été fait, il y avait un espoir de pouvoir mettre l'Afghanistan sur une trajectoire qui bénéficierait à la plupart des Afghans. Et très franchement, valait mieux vivre à Kaboul en 2009 qu'aujourd'hui en 2022 ou en 1999. Ça c'est assez net. Après, il est vrai que certains héritages coloniaux perdurent dans certaines pratiques militaires. L'un des exemples, c'est la tendance à vouloir identifier ce qu'on appelait à l'époque de la colonisation les races martiales, c'est-à-dire des groupes ethniques sur lesquels le colonisateur pouvait s'appuyer parce que eux, ce sont de vrais guerriers, eux, ils sont dans notre camp, et ainsi de suite. Et on a eu tendance à faire un peu la même chose, par exemple, en Afghanistan, en se disant, les Pashtuns, c'est un groupe ethnique spécifique, il va falloir les travailler spécifiquement parce que eux, ce sont des guerriers, et ainsi de suite. On a parfois eu tendance à faire la même chose au Mali, en s'appuyant sur les Touaregs, parce qu'il y a un mythe au sein de l'armée française, un mythe des Touaregs comme étant un groupe ethnique, combattant, valeureux, et ainsi de suite. Et encore une fois, ce n'est pas l'intégralité des forces armées, ce n'est pas ce qui explique l'intégralité de la décision, mais ce sont aussi des pratiques qui perdurent parmi la multiplicité des facteurs qui conduisent à une intervention militaire. Quand on est intervenu au Mali, il y avait un risque sécuritaire qui était évalué comme tel par les services de l'État. C'est pas par plaisir d'intervenir. Donc, tout ça se mélange, en fait, dans différentes proportions. L'idée de dire qu'effectivement, on va aider des gens, l'idée de dire qu'il y a un risque sécuritaire pour nous, pareil pour l'Afghanistan, hein, on est aussi intervenu parce que les talibans protégeaient Al-Qaïda.
C'était aussi pour empêcher d'éventuels attentats, oui. C'est pas juste pour aider les autres, mais c'est ça.
Oui, tout à fait. Il y a toujours une motivation sécuritaire. Après, je pense pas que politiquement, un État pourrait dire « je vais envoyer mes citoyens potentiellement à la mort sans aucun intérêt ». Je ne suis pas sûr que politiquement, un responsable politique pourrait dire ça.
Est-ce que c'est vrai que seul le président possède les codes de l'arme atomique ?
Alors, c'est un petit peu différent au sens où la procédure est organisée de telle manière que, c'est un système à plusieurs clés. Mais effectivement, celui qui prend la décision d'utiliser l'arme atomique, ce sera le président de la République.
À plusieurs clés, ça veut dire il y a plusieurs personnes qui possèdent les codes.
En fait,
ça se passe en fait ? On va dans une pièce. Enfin, comment ça se passe ?
Alors, ça serait probablement au sein du PC Jupiter, qui est en fait le PC qui est un poste de commandement qui est sous l'Élysée, qui est un poste de commandement protégé. Très probablement, le président serait informé d'une situation particulière et consulterait ses conseillers. Et en fait, alors. Les détails sont pas révélés, donc je peux pas donner le détail technique classifié parce que c'est pas du tout dans l'espace public. Mais l'idée c'est que il y a un système crypté et protégé qui permettrait d'envoyer des instructions aux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins eux-mêmes, qui en fait sont équipés des armes nucléaires balistiques. Leur mission fondamentale, c'est de toujours être indétectable et d'être toujours prêt à recevoir un ordre. Et à l'exécuter dans la foulée.
Donc là, il y a des sous-marins quelque part, mais personne ne sait où ils sont.
Tout le temps.
Tout le temps.
Et quand je dis personne ne sait où ils sont, c'est personne, sauf le commandant du sous-marin. Réellement, les états-majors, si vous voulez, qui sont à terre, organisent le fait que le sous-marin quitte l'île Longue, en fait, c'est à côté de Brest, c'est là où sont basés les sous-marins nucléaires sans engin. Donc, il organise la manœuvre pour qu'il quitte l'île Longue sans être tracé par des sous-marins adverses, parce que c'est évidemment le jeu. Mais une fois qu'il sait ce qu'on appelle diluer, c'est-à-dire qu'il est rentré dans les profondeurs de l'océan qui font qu'il est beaucoup moins facilement détectable, il est le commandant du sous-marin et le seul responsable de sa mission. Sa mission, c'est de rester non détecté, disponible pour recevoir l'ordre et capable de l'exécuter.
Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que la France est encore une puissance militaire importante ?
Oui, en Europe, c'est le cas pour deux raisons principales. La première, c'est évidemment la capacité de dissuasion nucléaire qui est pas à la portée de tous les États. Ça suppose un degré de technicité qui est assez important, un degré de compétence des troupes qui est vraiment élevé. Et le deuxième, c'est l'expérience opérationnelle, acquise au cours des 20 dernières années lors de différentes interventions.
Vous écrivez dans votre livre une phrase qui m'a interpellée, que je pense qu'elle est très juste et qui s'applique à plein de domaines, pas seulement d'ailleurs la puissance militaire. Vous écrivez « La puissance n'est jamais un attribut, elle est une relation ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors effectivement, c'est un peu il y a toujours un peu cette tendance de dire qui est plus puissant en regardant les budgets de défense et en regardant j'en sais rien moi le nombre de troupes et ainsi de suite. Mais en fait, il faut penser la puissance comme une interaction, c'est-à-dire que la France sera moins puissante par rapport aux États-Unis, elle sera plus puissante par rapport au Luxembourg. Donc il faut toujours penser la puissance comme une relation dyadique en fait entre deux ou plusieurs acteurs, et sachant que je pense qu'il faut en fait distinguer entre les sources de la puissance qui peuvent être des sources économiques, des sources militaires, c'est-à-dire en fait les capacités dont on dispose, et la nature même de l'interaction. Par exemple, personne ne prendrait au sérieux la France ou les États-Unis ou n'importe quelle puissance nucléaire, si on disait nous allons utiliser l'arme nucléaire parce que nous venons de perdre un accord commercial. Ça ne serait pas crédible, parce que la menace serait beaucoup trop importante, serait beaucoup trop démesurée. Donc en fait, dans cette interaction spécifique-là qui serait une interaction commerciale, avoir l'arme nucléaire n'est pas une ressource de puissance supplémentaire. Dans une crise militaire majeure, avoir l'arme nucléaire est une ressource de puissance supplémentaire. Donc à chaque fois, il faut penser les acteurs en interaction eux-mêmes et la nature même de l'enjeu, en quelque sorte. Les ressources de puissance seront plus ou moins utiles en fonction du contexte.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Ukraine, ça peut raviver le sentiment européen ?
En tout cas, il y a une claire perception d'une menace commune. Je pense que quand Ursula von der Leyen a été nommée présidente de la Commission européenne, si on lui avait dit que 2 ans plus tard, elle serait à autoriser le remboursement des livraisons d'armes à un pays en guerre, elle aurait pris tout le monde pour des fous. Et je pense que n'importe qui aurait dit ça serait passé pour un fou. J'ai longtemps travaillé...
Parce que tout d'un coup, la Suisse qui sort de sa neutralité, l'Allemagne qui se met à redépenser de l'argent pour son armée,
La Finlande, la Suède qui livrent des armes, qui sont des pays neutres, qui envisagent d'adhérer à l'OTAN. Comme je disais, j'ai pas mal travaillé sur la politique de défense allemande. J'avoue que je ne pensais pas voir dans ma vie un chancelier SPD annoncer qu'il allait investir 100 milliards d'euros pour remettre à niveau la Bundeswehr. Donc il y a très clairement un sentiment de menace immédiate qui, aujourd'hui, peut contribuer à une forme de coopération européenne renforcée.
Et aujourd'hui, finalement, ça met en difficulté cette extrême droite qui soutenait la Russie.
Je pense que effectivement politiquement.
Parce que Zemmour et Marine Le Pen, aujourd'hui finalement, ils sont dans une situation plus délicate. Ça les met en difficulté.
Mais politiquement, je pense que c'est plus compliqué pour eux de justifier un certain nombre de déclarations passées. Il y a un certain nombre d'articles qui ont été publiés là ces 2 derniers jours justement qui reviennent sur ces déclarations. Oui, je pense que c'est plus compliqué pour eux. Oui, ce sont pas les seuls d'ailleurs. Je pense que sur le spectre gauche du spectre politique, Jean-Luc Mélenchon a un peu plus de difficultés à justifier ses positions équidistantes entre la Russie et les États-Unis. Enfin, en tout cas, qui voudraient équidistantes.
Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais passer ma vie à étudier la guerre ?
C'est une bonne question, ça. Je pense que... Il y a un aspect où, en fait, mon grand-père était engagé volontaire en Algérie, parachutiste, et il a clairement été très, 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 très marqué par le conflit émotionnellement. Donc, ce sont des choses dont on parlait absolument jamais à la maison en famille, mais par contre, il regardait beaucoup de documentaires sur Arte, sur la Seconde Guerre mondiale, sur la guerre d'Algérie notamment, et on a toujours eu beaucoup de livres à la maison sur ces questions. Donc, petit à petit, ça a titillé mon intérêt, et en fait, je pense que... Ça y est, je sais en fait le moment où ça s'est passé. J'ai commencé à travailler sur fondamentalement les choses qui me font peur. Et à l'origine, je voulais faire mon mémoire de quatrième année, de diplôme sur les survivants des camps français, des camps allemands en France, en gros les survivants du Struthof. Parce qu'on a aussi une histoire familiale là-dessus où une partie des frères de mon arrière-grand-père sont morts au Struthof. Et donc du coup, je voulais m'intéresser à l'expérience des prisonniers français dans les camps allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, émotionnellement, j'étais incapable de travailler dessus. Vraiment, je ne pouvais absolument pas travailler sur les souffrances des prisonniers de guerre dans le contexte d'un génocide. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui me semblait le deuxième aspect important politiquement, mais que émotionnellement j'arrivais à gérer en quelque sorte, qui était les causes de la guerre et de la paix. Je pouvais pas travailler sur les génocides, là c'était vraiment trop pour moi, et j'ai beaucoup de respect pour les universitaires ou les praticiens qui travaillent sur les situations de génocide, parce que c'est vraiment émotionnellement particulièrement éprouvant. Et en fait, les questions de guerre et de paix, j'arrivais à le gérer. Et comme politiquement, je trouvais ça majeur, j'avais besoin de comprendre plus. En fait, c'est souvent comme ça que les universitaires choisissent une spécialité. En fait, c'est qu'ils ont besoin de comprendre quelque chose beaucoup plus en profondeur.
Vous qui étudiez les conflits, la guerre et les logiques de conflits, pensez-vous que ce soit quand même un problème masculin ? Parce qu'on est toujours un peu tenté parfois quand on voit les comparaisons de budget de la défense, quand on voit les surenchères, de se dire « désolé, je vais être vulgaire », de dire le concours de bites.
Oui, il y a un article très célèbre d'une autrice américaine dans les années 80, qui est une anthropologue et qui raconte en fait sa découverte du milieu stratégique où les gens parlent d'échanges nucléaires comme si c'était un truc qu'on pouvait calculer de manière objective et parlent, en fait, on parle de missiles qui ont des formes oblongues, qui sont quand même très phalliques et qui parlaient de coefficients de pénétration, qui parlaient de...
Voilà.
Donc l'article est fascinant et c'est un article que je donne tous les ans à mes étudiants pour bien faire comprendre la dimension souvent genrée hein, de la violence. Je pense qu'il y a deux questions. Il y a à la fois, est-ce que si plus de femmes étaient en situation de responsabilité, est-ce que le monde serait plus pacifique ? Je suis partagé là-dessus parce que, comme je disais, je pense qu'en fait, des communautés politiques en fait, continueront à avoir des divergences politiques et seront tentées d'utiliser la violence pour régler leurs différends. Et on a historiquement un certain nombre d'exemples de dirigeants féminins qui n'ont aucun problème à utiliser la violence. Hein, Margaret Thatcher, Catherine II de Russie, enfin, on pourrait donner des exemples. Ensuite, sur les mises en œuvre de la violence, il est clair qu'il y a une dimension genrée dans le fait qu'il y a une virilité, une masculinité qui peut s'exprimer, par exemple, sur le corps des soldats. Faut être beau, faut être musclé, parfois les tatouages peuvent révéler certaines dispositions genrées. Il y a une claire disposition genrée dans les rapports hommes-femmes au sein des armées. Ça, c'est pas simple, les rapports hommes-femmes au sein des armées. Il y a toujours un certain nombre de gens qui considèrent que la place d'une femme, c'est pas nécessairement un milieu, ou en tout cas dans un rôle de combattant, parce qu'une femme, c'est protecteur. Donc, du coup, c'est l'homme, c'est le combattant, la femme, c'est celle qui est nourricière. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des femmes dans les armées ? Tout ça est en train d'évoluer, mais en fonction des pays, ça reste une dimension genrée. Donc, je pense qu'il faut séparer à la fois la question, j'allais dire, de la...
Mais la symbolique, comme vous le disiez, là, quand on parle de coefficient de pénétration des missiles, enfin, je suis désolée, la symbolique, elle est quand même limpide.
Ah oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut distinguer entre la possibilité de guerre, qui, à mon avis, n'est pas nécessairement genrée,
oui, la violence, et la mise en œuvre. Je pense. La violence, voilà. Les femmes aussi peuvent être violentes.
Voilà. Et la mise en œuvre qui est l'héritière de 4000 ans de rapports genrés. Donc, c'est clair que sur le mythe du soldat, il y a une forme de virilisme qui s'exprime plus ou moins en fonction des armées. Mais si vous regardez, par exemple, il y a une vidéo absolument collector de l'armée égyptienne où, lors d'un défilé, en fait, ils font défiler des soldats ultra baraqués, donc clairement qui font de la musculation, avec les corps huilés, musculeux, donc c'est en même temps très homo-érotique, et qui en fait doivent sauter dans des cerceaux en feu, sans le truc, ça a aucun sens militaire, mais ça met en scène une forme de virilité qui dit « nous on est des bonhommes ».
Et là on le voit d'ailleurs... Il y a peut-être une extension de ce domaine de l'érotisme militaire où sont publiées des photos de jeunes femmes ukrainiennes hyper jeunes, hyper belles, avec des armes à la main et des jeunes hommes qui retweetent en disant « Venez, la guerre en Ukraine, c'est ça. Enfin, si c'est ça, oui. J'y vais. » Enfin, il y a une sexualisation
bien
un
sûr.
Peu triviale du coup du corps de ces soldats. C'est pas forcément une avancée.
Non, bien sûr, ça relève de toute une forme de sexualisation des femmes slaves dans l'imaginaire occidental.
Exactement, l'activation de ce cliché voilà. Toujours le même.
Mais il y a, sachant que ce sont elles-mêmes des sociétés qui sont très très genrées dans les rapports hommes-femmes, mais il y a eu le même mythe autour des combattantes kurdes. Qui étaient présentées comme étant, regardez, des femmes qui se battent, et en plus elles sont belles, et ainsi de suite, et qui permettaient d'évacuer complètement les rapports et le fait que les groupes kurdes sont souvent des groupes très autoritaires, idéologiquement très, très contraignants, mais en mettant en avant les femmes kurdes, bah en fait, ça permettait d'évacuer tout à fait l'aspect politique de ce que sont en fait des groupes autoritaires, certes résistants, mais néanmoins autoritaires kurdes. Israël fait la même chose, hein, en mettant en avant des femmes au sein de Tsahal, mettant en avant dans sa communication de très belles israéliennes qui portent le M16, qui sont en uniforme, pour montrer que c'est une armée inclusive qui traite de la même manière hommes et femmes. Mais effectivement, les femmes qui sont mises en avant dans la communication correspondent aux critères d'esthétique dominants.
Un aspect qu'on n'a pas encore abordé, ce serait bien qu'on en discute quand même quelques minutes. Que craindre de la catastrophe climatique qui est en train de se dérouler, puisque visiblement aucun pays ne respecte ses engagements de l'accord de Paris, donc vers laquelle on va droit devant. À votre avis, quelles seront les conséquences en termes de conflits et de sécurité ?
Les principales craintes, elles sont des mouvements de déplacement forcé de population qui entraîneraient des raidissements politiques entre les États, donc potentiel risque de conflits accrus, et une rivalité pour l'accès à certaines ressources, y compris par exemple des ressources en eau, qui entraîneraient des tensions politiques qui pourraient dégénérer en guerre. Donc c'est clair que de ce point de vue-là,
à votre avis, ce serait où ?
Ça pourrait être au Moyen-Orient, ça pourrait être en Asie du Sud-Est. Donc il y a un ensemble de terrains potentiels, mais qui sont sur des théâtres déjà potentiellement inflammables. Donc en fait, de ce point de vue-là, la crise climatique sert d'effet loupe ou d'effet magnifiant pour des tensions politiques préexistantes.
Alors, une question qu'on essaye toujours de se poser vers la fin de notre podcast, c'est de se dire qu'est-ce que nous, on peut faire à notre petite échelle ? Est-ce que les individus peuvent avoir un impact pour éviter que les situations de conflit ne dégénèrent ? Est-ce que là, nous, on peut faire quelque chose pour la situation en Ukraine ? Qu'est-ce que vous conseilleriez ?
Alors, je suis un peu mal à l'aise de conseiller de faire quelque chose à qui que ce soit, mais du point de vue des individus ont toujours un rôle, notamment en démocratie. Et c'est vrai qu'on est une démocratie imparfaite, mais je pense que ça reste probablement le moins mauvais des régimes comparé à d'autres. Il y a deux aspects. Il y a, à mon avis, un premier aspect qui consiste à intellectuellement se préparer au fait que nous avons vécu dans des sociétés d'abondance, dans des sociétés de gaspillage, et que probablement les sociétés occidentales vont être de plus en plus impactées dans notre quotidien par l'émergence de nouvelles guerres. Et ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un effort de préparation qui consiste à accepter un degré de sobriété, accepter contraintes sur notre capacité de consommation. Il va falloir, à mon avis, se préparer à ça. Et le deuxième aspect, évidemment, la solidarité internationale. Je veux dire, l'accueil potentiel de réfugiés ukrainiens, l'envoi de matériel médical, l'envoi de vêtements pour les réfugiés, ce sont effectivement des choses qui sont toujours utiles. Donc je pense qu'il y a ces deux aspects qui sont complémentaires.
Eh bien, merci beaucoup. Un grand merci d'avoir été avec nous. C'était passionnant de vous écouter. Merci beaucoup, Olivier Schmitt. Merci à vous qui nous écoutez. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice Elisa Grenet. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un petit tête-à-tête avec l'un ou l'une de nos chroniqueuses et vendredi prochain pour un nouveau débat. Et d'ici là, mes chers amis, ne l'oubliez pas, comme on l'a dit, le but de Moscou est ce que nous croyons plus en rien. Alors continuons de croire.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.